Bonjour. Voilà. Je vais vous parler sur la justification par la foi. C'est pas un sujet qui c'est un sujet qu'on aborde fréquemment dans nos églises, mais ne vous en faites pas. Jusqu'à la fin de votre vie, il faudra que vous y passiez, parce que malheureux à dire, mais on n'a jamais compris ces choses-là. En fait, on les a pas toutes intégrées. Dans Galates 2,16, il est dit « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Si vous demandez à une personne non chrétienne si elle mène une vie juste, elle vous dira oui, non, parce que je fais quelque chose ou je ne fais rien, ou elle se sentira culpabilisée. Si vous demandez à un chrétien s'il vit d'une manière juste, à ce moment-là, il vous dira bon, peut-être que je devrais lire un peu plus ma Bible, ou prier davantage, ou peut-être évangéliser, ou peut-être... J'ai des péchés, je n'arrive pas trop à m'en sortir dans ma vie. Quel est celui qui répondra oui, je vis d'une manière juste, parce que j'ai mis toute ma confiance, ma foi en Jésus-Christ et non pas en moi-même. Je suis déclaré juste par la vie de Jésus-Christ, non pas à cause de moi. Je suis déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Que veut dire mettre sa confiance en Christ? En Galates 2,20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y en a même, je dirais, que j'ai du mal, vraiment du mal à avaler. Une des choses qui ne passe pas, c'est l'enfer. Comment un Dieu qui est aussi bon que nous connaissons va permettre que des personnes soient éternellement dans la peur, dans l'angoisse, dans les tourments, dans le lac du feu, dans les souffrances perpétuelles, avec des vers, dans une corruption, une putréfaction permanente. Alors, je ne parle pas des démons, je ne parle pas de Satan, c'est sûr que Satan et les démons seront dans le lac de feu, mais je parle de mon voisin de palier, je parle de mon collègue de travail, avec qui je parle, que j'aime, avec qui j'ai une relation. Dieu déclare juste celui qui croit que Jésus-Christ l'a aimé et que cet amour l'a poussé à prendre ma place sur la croix, à subir les souffrances que je méritais. Dieu déclare injuste une personne qui se base sur ses propres mérites ou qui rejette la solution de Dieu qui est Christ sur la croix. Dieu donne le paradis à une personne qui met sa foi en Christ pour le salut, et l'enfer à celui qui refuse Christ pour son salut. Dieu n'est pas le Dieu, il n'est pas gris, il est blanc ou noir, je dirais qu'il est blanc, et que cette lumière n'accepte rien de ce qui est injuste. Tout ce qui est de nous est rejeté, tout ce qui est de Christ est accepté. Il vous faut porter un badge, Jésus-Christ. Là, les portes sont ouvertes. Mais dès que vous mettez votre nom sur le badge, il n'y a plus rien. Vous êtes disqualifié, vous êtes arrêté. Dieu est le Dieu de notre salut. En Psaume 51, verset 14, Voici ce que David a dit, le grand David. Il a dit, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » David était un homme de Dieu exceptionnel. Il avait toujours gardé la volonté de Dieu. C'était un amoureux de Dieu. Il avait une relation avec Dieu tout à fait particulière. David aimait Dieu. Mais ce grand homme de Dieu, comme beaucoup, est tombé. Il avait vu une très jolie femme qui se baignait. Il a couché avec elle. En plus, cette femme est devenue enceinte. Et puis après, pour cacher son péché, il a dû tuer son mari et puis prendre la femme avec lui pour que personne ne sache que cet enfant venait de lui. Dieu l'a repris et David s'est humilié de son péché. De sa hauteur, il est tombé en bas, il a reconnu son péché. David avait toute sa vie pris le parti de Dieu. Beaucoup de personnes le haïssaient parce que c'était un homme de Dieu. Et maintenant, il se retrouve sans Dieu et en face de ses ennemis. À cause de son péché, maintenant, il se retrouve isolé et Dieu est distant de lui. Il avait irrité Dieu par son comportement. Mais David était un homme de foi. Il savait que Dieu pouvait le retirer de cette situation. Si vous dites à quelqu'un maintenant que un adultère, ça peut marcher encore, ça va. Si vous dites qu'il a tué un meurtre, non, un meurtre, ça ne marche pas, un meurtre, il est irrécupérable, le gars. Puis en plus, il prend la femme avec lui, c'est bien. Aux yeux humains, David ne pouvait pas être accepté de Dieu. Aux yeux humains, il était rejeté, il devait être rejeté de Dieu. Mais David connaissait Dieu. Et David s'est planté devant Dieu pour apporter son problème. Et David a eu la victoire. Il appelle le Dieu de mon salut, en plein dans le péché, en plein dans sa bassesse, dans l'horreur de ses actes. Il s'est mis par terre et il a dit, tu es le Dieu de mon salut, tu es celui qui peut me retirer de cette situation impossible. Et David a demandé à Dieu l'impossible. Il a dit, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi de mon péché. C'est ce que nous faisons quand nous péchons, quand nous sentons notre laideur, quand nous voyons qui nous sommes réellement. Ce n'est pas beau, pas bon ce qui est en nous, bien souvent. La croix est la solution de Dieu que Dieu a prise pour nos péchés. Le Dieu de mon salut signifie Christ sur la croix. La solution de Dieu, c'est Jésus-Christ sur la croix. Christ qui prend ma place, Christ qui souffre, Christ qui agonise sur la croix, mais qui reste sur la croix. Celui qui croit que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour ses péchés est déclaré juste. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour son péché, Dieu le damne éternellement. Il va en enfer éternellement. Que produit l'amour de Christ pour nous? Cet amour de Christ fait que nous nous donnons à Dieu, que notre vie change. En Philippiens 3:7, Paul, ce pharisien, ce religieux, cet homme accompli, ce jeune fougueux dans la vie religieuse dit « Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. » Afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul dit que pour connaître Jésus-Christ, il a renoncé à tout. Tout ce qui faisait sa gloire, sa naissance, sa religion, ses œuvres, il y renonce. Je dois dire que nous devons renoncer à tout ce qui de nous nous rend reluisant. Nous ne pouvons pas connaître Christ et chercher à se faire connaître. Il faut choisir. Je parle dans notre cœur, dans nos pensées internes. Car nous essayons de nous faire voir auprès des autres, nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est la mort à soi-même pour chercher Dieu, pour connaître Christ. Il n'y a pas d'autre choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous faire connaître, mais vous ne connaîtrez pas Jésus-Christ. En deuxièmement, il dit « gagner Christ ». La récompense que Dieu donne aux hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vie complète que Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande joie dans notre vie que de vivre en Christ, que de connaître Christ. Celui qui vit Jésus-Christ, celui qui vit Jésus-Christ, est parfait, accompli en toutes choses, rien ne lui manque. Christ est le paradis. Si vous enlevez Christ de la vie chrétienne, vous n'avez plus rien. Je dirais, vous êtes cuit, vous êtes foutu. Comment gagner Jésus-Christ? Alors après, dans Josué 1:1, il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ce pays, Canaan, représente le paradis, la planète qui est dans le ciel, où Dieu est, où les anges sont, où ceux qui sont morts sont avec le Seigneur Jésus. Mais il représente aussi Jésus-Christ. Dieu nous donne Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre en lui. Maintenant, il faut le prendre. De la même façon que Dieu a donné ce pays aux Israélites, mais qu'il fallait qu'ils gagnent ces géants, toutes ces choses, de même Dieu nous donne Christ. Christ est à nous. Maintenant, il nous faut le prendre. Il nous faut vivre maintenant. En Jésus-Christ. Comment chasser ces géants qui sont en nous, ces mauvaises habitudes, ce caractère familial parfois on s'y fait bien, hein, ces péchés qui nous font toujours tomber? La réponse est simple, marcher par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sait comment assiéger Jéricho. C'est l'Esprit de Dieu qui sait comment vaincre Haï. C'est l'Esprit de Dieu qui sait comment venir à bout de ces géants qui ont des chars, qui sont dans la plaine, dans les montagnes, dans notre cœur. Rien n'est caché à l'Esprit de Dieu, rien ne lui résiste. Il a la solution à tous nos problèmes, quels que soient nos problèmes. Quel que soit le péché, aussi bas que vous soyez, le Saint-Esprit, il sait comment vous en sortir. Il a la solution. Voulez-vous l'écouter? Voulez-vous laisser de côté ce que vous pensez être bien ou pas bien, faire ou pas faire, pour suivre l'indication du Saint-Esprit, pour marcher du Saint-Esprit? Voulez-vous faire vos œuvres? Ou voulez-vous simplement obéir? Avoir confiance en Dieu pour votre délivrance. Si vous acceptez d'être conduit par le Saint-Esprit, Dieu va pulvériser, anéantir ce qui en vous et rejetable ce qui en vous est puant, je dirais. Et il va vous donner de vivre en Christ, en Jésus-Christ. Troisième, il dit aussi d'être trouvé en lui avec ma justice qui s'obtient par la foi en Christ. Paul ne voulait pas être trouvé en Paul. Je répète, Paul ne voulait pas être trouvé en Paul. Est-ce que vous voulez être trouvé en vous-même, qu'on dise du bien de vous ? Est-ce que vous voulez que les gens vous fassent des courbettes ? Pourtant, il pouvait dire « j'ai évangélisé le pourtour de la Méditerranée ». Il aurait pu dire « j'ai fait des tas de miracles, des guérisons ». J'ai amené des milliers de personnes à Christ. Paul voulait être trouvé en Jésus-Christ. Paul ne voulait pas qu'on parle de lui. Il voulait qu'on parle de Jésus-Christ. Il voulait être trouvé en Christ avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, celui qui l'a aimé et qui s'est donné pour lui. De même qu'on voyait le Père en Christ, celui qui marche en Jésus-Christ, on voit le Fils. Comment savoir si nous marchons en Christ ou en nous-mêmes ? Il y a une petite illustration, c'est dans Luc, chapitre 18, verset 9. Il dit encore c'est Christ qui dit encore une parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient d'être justes. Il y a des personnes qui se persuadent d'être justes. J'espère que ce n'est pas le cas parmi vous. J'espère qu'on a bien compris ce qu'on a dit, la justice de Christ. Mais bon, je n'ai pas toujours compris ces choses-là, malheureusement. J'ai encore des progrès à faire. Et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Il est bien ce mec-là. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors le verdict, il est un peu sévère, je trouve, parce que, je vous le dis, ce publicain, celui-ci, descendit dans sa maison justifié. Il fut déclaré juste, parce qu'il s'était abaissé, parce qu'il l'avait confessé son péché, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain était conscient de ses péchés. Il aurait pu dire, Dieu ne veut pas de moi. Il aurait pu en vouloir à Dieu. Il est venu à Dieu pour trouver la solution à ses problèmes. Comment savoir si nous sommes dans la grâce ? Une des choses, c'est que nous méprisons les autres. Nous mettons sur le piédestal et les autres, ils sont en bas. Nous faisons les choses et les autres ne font rien. Nous sommes les grands, les autres sont les minus. Lorsque nous sortons de la grâce, nous ne voyons que nous-mêmes et les autres, c'est toute une nébuleuse à côté. Et on ne peut même pas les comparer à nous-mêmes. Nous sommes sur le piédestal. Une autre caractéristique de la grâce, c'est que nous portons les fardeaux des uns des autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. La douceur, c'est quelque chose qui nous manque. La douceur, cette espèce d'aliments, de bonbons qui fait du bien, la douceur. Avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voulez être des hommes qui accomplissez la loi de Jésus-Christ, portez les fardeaux les uns des autres. le péché des autres devient le nôtre. On ne montre pas du doigt le péché des autres, parce que le péché des autres, c'est dans les chrétiens, c'est mon péché. Sa faiblesse, c'est la mienne. Je porte ce qui est élevé. Si mon frère est élevé, je suis dans la joie. Si mon frère est en bas, je suis dans la tristesse. Je m'humilie devant Dieu et je fais sortir cet homme du cachot, de là où il est. Je prie devant Dieu jusqu'à ce qu'il sorte de là. Et je ne tolère pas qu'il reste enfoncé. C'est mon frère, c'est moi-même. J'en ai aussi la charge. On s'humilie devant Dieu. En conclusion, je dirais que dans la grâce, nous remercions Dieu, nous le louons, nous l'adorons. C'est la conséquence de la grâce. En Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en lui, pas en nous-mêmes, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Tout ce que nous l'avons en Jésus-Christ. Tout ce qui est de bon en nous est de Christ. Dieu nous voyait avant la création. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui me pose un problème, c'est comment se fait-il qu'un temps donné, je n'existe pas, et un temps plus, quelque chose, j'existe. Là, ça me pose des problèmes. Dieu nous voyait avant la création, il nous voyait saints, il nous voyait irrépréhensibles, et c'est ce qu'il a fait. C'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Nous sommes des enfants d'adoption pour le remercier, pour le louer pendant toute l'éternité. Toute l'éternité, quand nous allons comprendre quelle était l'œuvre de Jésus-Christ, nous allons l'adorer, nous allons le remercier. En lui, nous sommes devenus, un peu plus loin, il dit à Éphésiens, en lui, nous sommes devenus héritiers. Hein, qui c'est qui ne veut pas être un héritier ? Un grand héritier, pas un petit héritier, un héritier des choses célestes, l'héritier de Dieu. Ayant été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui l'avons d'avance, avons espéré en Christ. Plus nous voyons la grâce de Dieu et plus nous louons Dieu, moins c'est difficile de louer Dieu. Moins c'est difficile d'adorer Dieu, de se prosterner devant Dieu, parce que nous reconnaissons pas que Dieu est supérieur à nous, mais que Dieu nous dépasse dans tous les domaines. Nous sommes complètement consternés devant la grandeur, la bonté, la gloire, la miséricorde que Dieu a pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, il va nous donner un corps incorruptible, glorieux. Certaines personnes savent qu'ils ont besoin d'un corps incorruptible, d'un corps glorieux. Il va nous donner des maisons, des terres qui seront à nous. Et pas des terres comme on voit avec des maisons, non, quelque chose qui dépasse notre entendement bien de loin. Les maisons, c'est Christ qui est celui qui crée en ce moment des maisons pour nous. Il est en train de faire une demeure, il nous prépare une demeure, il va revenir, il va nous prendre avec lui pour que nous soyons éternellement avec lui. Nous pourrions sans cesse le louer, le remercier, nous passerons notre vie à adorer Dieu. Ce ne sera pas difficile d'adorer Dieu. Vu comment est Dieu, on sera obligé de le faire. On ne pourra pas faire autrement. Dieu, donc, nous donne toutes choses à cause de l'œuvre de Christ et toute notre éternité, nous le remercierons, nous le louerons, nous l'adorerons. Nous ne sommes donc pas des hommes, des femmes justes, loin de là. Mais nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Nous marchons en mettant notre confiance en Christ. Nous regardons non pas à nous-mêmes, nous regardons à Jésus-Christ. C'est sûr que nous devons regarder ce que nous faisons, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais notre confiance, notre richesse vient de Jésus-Christ. Notre base, notre foi est basée en Christ. Rien ne peut nous enlever de ce qui est de Jésus-Christ. C'est du solide, c'est stable, c'est éternel. Notre foi, notre confiance est en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen.